Lettre 35e, Apelles à Giunia Marcella, Trachéna, novembre 301. Tu t'attends, mon ami, que je vais te donner d'heureuses nouvelles de mon arrivée de Talarissa. Hélas, je tremble de ce que j'ai à t'apprendre. Je voulais te préparer aux plus affreux événements, mais à quoi servent de vains ménagements quand il faut dire la triste vérité? Lis donc. Mais ne perds pas de vue que rien ne se fait sans la volonté de Dieu, que nos jours sont comptés, que cette terre n'est qu'un lieu d'épreuve. Laisse à présent un instant cette lettre, fortifie-toi par la prière, la résignation, et achève le triste récit que je vais te tracer. Tu sais sans doute ce que j'appris moi-même en approchant des environs de Trachéna, que les Goths ont fait à diverses reprises des excursions sur les deux rives du Bosphore. J'appris d'affreux détails de leur témérité, de leur barbarie, et je ne puis te cacher que l'idée de me rendre dans un lieu si près de la mer ne me causa quelque inquiétude. Cependant, j'espérais que ma visite aurait le double avantage d'être de quelque consolation à Larissa, et d'engager Démétrius à quitter ces dangereux parages pour s'établir dans quelque ville. Oh, ma respectable amie, que sont les projets des hommes? Rien que de la poussière dissipée au loin par le vent. Mes projets, mon arrivée, tout fut tardif. Deux jours auparavant, les barbares avaient tenté une descente, et à la faveur des ombres de la nuit, ils tombèrent comme une nuée, en poussant des cris horribles sur la demeure de Démétrius. Au lieu de s'échapper avec sa femme et ses gens, ce qui lui était encore possible, Démétrius alla à leur rencontre à main armée avec ses esclaves. Un combat s'engagea, mais la supériorité du nombre était si considérable du côté de l'ennemi que les femmes, restées seules dans la maison, n'eurent plus le temps de se sauver. Démétrius fut assassiné un des premiers. Ses esclaves moururent à ses côtés. Les Goths forcèrent la maison, massacrèrent tous les êtres qu'ils y trouvèrent. Leur cruauté était excitée par la résistance. La maison fut pillée, en partie incendiée. La horde des barbares se retira vers le matin en poussant des cris d'allégresse. Longtemps après leur départ, les voisins, auxquels s'étaient joints trois ou quatre malheureux esclaves échappés au massacre, osèrent revenir sur le théâtre de carnage pour voir s'il y aurait encore quelqu'un à secourir. Tout était mort. Le corps inanimé de Démétrius, entouré des siens, était sur la terre. Le nombre des barbares dans le même état prouvait qu'ils s'étaient défendus en désespéré. On trouva dans la maison plusieurs cadavres d'esclaves assassinés. Enfin, dans la chambre de Larissa, le corps d'une femme absolument défigurée par une quantité de blessures. Mais le voile de Larissa, ce tissu blanc, bordé en or et remarquable par sa finesse, était encore sur sa tête, souillé de sang. Elle avait aussi autour de l'un de ses bras un bracelet de perles d'un grand prix. Il n'est plus alors resté de doute. Il manque quelques esclaves des deux sexes qui, peut-être, auront été la proie des flammes. Quoi qu'il en soit, chère Giunia, il est plus que probable que Dieu a retiré à lui notre ami d'une manière bien cruelle. Elle a cependant moins souffert que si elle avait langui dans un lit de douleur, et moins peut-être que des maux qui accablaient son cœur. Ses blessures, d'après le rapport de ceux qui les ont examinées, étaient si nombreuses et si profondes que, suivant eux, elle n'a pu exister que quelques minutes. C'est une bien triste consolation, mais la seule qui reste à ses amis, bien plus à plaindre qu'elle. Ceux qui nous quittent échange un bonheur passager contre un bonheur durable, et ceux dont la vie n'est qu'une longue agonie sans espoir trouvent enfin la paix et le repos. Je ne te dis pas cela pour te consoler, Giunia. Je sens toute la grandeur de ta perte. Une amie est un bienfait de la Providence, la perdre est la plus cruelle des épreuves. Dieu n'exige pas de nous que nous soyons insensibles à une aussi grande affliction. La perte de Larissa et le genre de sa mort doivent nécessairement faire une grande impression sur toi. J'espère cependant beaucoup de ton courage et de la société de Théophon. Il pleurera avec toi, notre jeune, notre malheureux ami, et voilà ce qu'il te faut. Je voulais retourner près de toi à l'instant même, puisque le but de mon voyage était manqué si malheureusement. Mais il s'en est présenté un autre le matin même de mon arrivée, et j'ai reconnu la bonté de Dieu qui n'a pas voulu qu'il fût inutile. J'arrivai le soir à Trachéna. J'appris des voisins l'affreux événement, et comme ils virent à mes larmes l'intérêt que je prenais surtout à Larissa, À ma prière, ils consentirent à me laisser son voile, que je voulais t'apporter comme la seule chose qui resta de ton ami. Le lendemain, je parcourus cette triste demeure à peu près incendiée. Je traversai en frémissant ces chambres désertes, lorsque j'entendis, dans la cour, le bruit du pas de plusieurs chevaux. J'avance vers une fenêtre, et je vois un jeune homme de la tournure la plus noble. Accompagné de plusieurs esclaves à cheval, ils descendent, beaucoup de gens se rassemblent autour d'eux, celui qui paraissait le maître les questionnait avec l'apparence de la plus grande crainte. Je sortis précipitamment pour l'instruire avec ménagement, j'arrivais trop tard. Agathoclès, tu l'as sûrement deviné, venait de tomber sans connaissance dans les bras de ses compagnons. Je le fis transporter dans la maison. Quelques moments après, il ouvrit les yeux. Son regard était égaré et ses paroles sans suite. Lorsque je me nommais, un rayon de paix entra dans son âme. Il se jeta à mon cou, nomma Larissa, et des larmes qui commencèrent à couler soulagèrent son cœur oppressé. Je lui racontai alors tout ce que je t'ai mandé. J'adoucis autant qu'il me fut possible les détails de la mort de Larissa. Je parlais avec une certitude, une éloquence que le ciel m'inspira du bonheur céleste dont elle jouit. Je le vis par degrés se calmer, s'attacher à l'idée que lui seul était malheureux, qu'elle ne souffrait plus. Il se leva et voulut sortir. « Excuse-moi, me dit-il, si je te quitte, j'ai besoin d'être seul, de réfléchir sur tout ce que tu viens de me dire. » Je le regardai avec inquiétude. « Ne crains rien, » continua-t-il en prenant ma main. « Ce que ta religion défend, ce que tu regardes comme une lâcheté, ce qui me séparerait peut-être à jamais de Larissa, ne peut être dans mes principes. Dans quelques heures, nous nous reverrons. » J'eus honte de mes soupçons, je me retirai. Après un long espace de temps, il me chercha. Je le trouvai plus résigné, et en cet état de parler avec plus de suite de cette horrible catastrophe. Son désespoir était changé en une sombre tristesse. Il demanda qu'on préparât la chambre de Larissa pour lui et pour moi. Je voulus m'y opposer, mais je vis bientôt que son cœur n'était pas de l'espèce commune. Il s'entoura des personnes qui avaient connu Larissa. Le souvenir de ses vertus, de ses souffrances, de sa résignation, de son amour pour lui, dont je ne craignais plus de lui parler, paraissait lui faire du bien. Le lendemain, il parcourut avec moi les environs, pour s'informer de tout ce qui s'était passé, et pour prendre toutes les précautions possibles afin de prévenir de nouveaux malheurs. Les habitants furent invités à envoyer à la ville voisine leurs objets les plus précieux. Il fit distribuer des armes, les instruisit de ce qu'il y aurait à faire, et les invita à se tenir toujours prêts à la défense. Il fit placer sur toutes les collines des signaux, au moyen desquels la contrée pouvait être en un instant sous les armes. On aurait dit que son propre malheur avait disparu à la vue de celui que couraient les voisins de Larissa. Mais bientôt la douleur revenait, avec d'autant plus de violence. À présent, j'ai la persuasion que son âme est d'une trempe trop forte pour qu'elle subjugue ses vertus ou qu'elle amollisse son courage. Il est facile de voir que nos saints dogmes s'y établissent peu à peu et que l'idée de rejoindre Larissa dans un meilleur monde peut tout sur lui. Il m'a prié de l'accompagner à Nicomédie, où il compte retourner demain pour prendre toutes les précautions nécessaires, afin que l'ennemi ne puisse tenter de nouvelles excursions. Je n'ai pu me refuser à sa prière. Je t'avoue que je l'aime, que je le respecte. Je te confesse aussi que je lui ai donné le voile de Larissa. Je l'ai accordé à ses instances. Il est aussi digne que toi de le porter, et une chrétienne comme Junia saura faire encore ce nouveau sacrifice. Il recula d'effroi en le voyant teint du sang de sa bien-aimée. Ensuite, il s'en saisit avec ardeur et le plaça sur son cœur. « Je ne doute pas que tu ne pardonnes ce rapt et ma longue absence. Dis-le à notre vénérable père Théophon, et tâche d'obtenir de lui la permission pour moi de prolonger cette absence. Consoler les malheureux est notre premier devoir, et qui plus qu'Agathoclès a, dans ce moment, besoin des soins de l'amitié. Adieu. »